Donner la parole aux étudiants, c'est tout le scénario du documentaire Génération confinée. Pour sa réalisation, ce projet a donné naissance au collectif Lillois Alarme. Leur objectif, montrer la précarité qui touche nombreux étudiants depuis le début de la crise sanitaire. Rencontre le 11 mars dernier avec deux de ses membres, Aude et Ryan.
Alarme, c'est venu tout seul, enfin, on ne l'a pas du tout choisi. Et donc c'est Alix, Lucie, Aude, Ryan et Maxime. Et voilà, et Ryan, il pourra vous en dire un peu plus sur les autres parce que c'est lui qui fait un petit peu lien dans ce groupe.
Au départ, du coup, j'ai pensé à cette idée de documentaire et j'en ai parlé avec Aude, du coup, que j'ai connu au théâtre en début d'année avant que tout soit fermé. Et ensuite, j'en ai parlé à plusieurs de mes amis qui sont du coup étudiants avec moi. Et ensemble, on a décidé de poursuivre un peu ce projet-là et de se donner à fond maintenant, tout de suite, parce que l'idée, c'était de réagir en urgence à une urgence.
Et alors, pourquoi autour des étudiants, pourquoi ce sujet-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous côtoyez peut-être au quotidien, toi, Aude, dans ton métier? Quel est votre lien, en fait, avec cette cause-là?
Pour ma part, c'est un truc, déjà, enfin, c'est quelque chose qui me concerne, parce que d'abord, je suis étudiant et parce que je vois cette détresse-là autour de moi, même si moi, je ne suis pas forcément le principal concerné. Et du coup, c'est en réaction à cette détresse-là que j'observe et aussi... En fait, on avait envie de montrer d'une autre façon la détresse étudiante, parce qu'aujourd'hui, on en parle et c'est bien, mais de la montrer d'un autre angle, d'un point de vue plus, pas artistique, mais l'idée, c'était pas simplement de donner des chiffres, de faire un reportage, mais vraiment de donner la parole sans pour autant imposer la nôtre. Et du coup, je trouvais ça très important de mettre ça en avant.
Bah ouais, moi je bosse depuis 3 ans et donc je suis plus étudiante, mais j'ai pas oublié que c'était tout près de moi. Et du coup, oui, et puis j'entends, en fait, à chaque fois que j'en entendais parler, c'était plutôt un discours de politique qui disait que globalement tout allait bien, que toutes les solutions étaient mises en œuvre pour que tout se passe au mieux pour les étudiants et que globalement, si ça se passait pas bien, c'était plutôt de la faute de l'étudiant qui bosse pas assez. D'ailleurs, c'est rigolo parce que hier soir encore, je lisais des commentaires de gens. Sur un post Facebook qui concerne les étudiants, justement, il y a plein de parents qui disent « Non, mais moi, ma fille s'en sort super bien, elle est très bien à la maison, elle a pu bosser. Je pense que s'il y a un problème, c'est que c'est votre fille, vous, qui bosse pas bien. » Et je me disais « Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. La précarité, elle est pas... Elle est beaucoup plus grande que ce qu'on a bien envie de faire croire. Et en fait, il suffit pas de dire dans les médias que tout va bien pour tout le monde pour s'en contenter, parce que c'est pas vrai en fait. Quand on écoute les uns et les autres, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont en grosse galère et pour qui c'est vraiment très 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 dur psychiquement, psychologiquement, financièrement, humainement. Et ça, nous, c'est ce qui nous a fait réagir avec Ryan en fait. Pendant longtemps, on se disait mais putain, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas possible.
Vous avez parlé de détresse, de précarité. Précarité, ça signifie quoi? On pense à précarité économique, mais c'est pas seulement ça.
Certes, il y a la précarité économique, mais il y a aussi la détresse sociale des jeunes aujourd'hui et la détresse culturelle. Prenons un jeune qui respecte absolument toutes les règles imposées par le gouvernement depuis un an. Ce jeune-là, à quoi se résume sa vie? Elle se résume à suivre ses cours depuis son ordinateur depuis un an, à voir 2-3 amis maximum parce que, il faut protéger, les plus sensibles d'entre nous. Et aucun rapport avec la culture, aucun rapport social, aucune relation amoureuse. Et c'est ça qu'on veut montrer, en fait. C'est pas... certes, il y a des jeunes qui sortent et qui respectent pas les règles, et ok, c'est condamnable d'une certaine façon, dans une certaine mesure. Mais on parle pas assez des jeunes qui, oui, respectent toutes ces règles. Et en fait, ce sont eux qui sont le plus à plaindre. Ceux qui subissent, et même qui se plient aux règles du gouvernement, ce sont eux qui subissent le plus, en fait. Et on n'en parle pas.
C'est une précarité du lien social qui se fait, qui est passée dans la trappe des oubliettes depuis un an. Et ça fait un an que j'entends des gens dire « il faut limiter les liens sociaux ». En fait, la solution pour se débarrasser du Covid, c'est de limiter nos liens sociaux. Mais non, en fait, c'est de limiter... D'ailleurs, au début, il y a un an, on ne parlait pas de distanciation physique. Le gouvernement lui-même parlait de distanciation sociale. Moi, ça m'a choquée, en fait. On ne peut pas parler de distanciation sociale. Ce n'est pas du tout la même chose que de parler de distanciation physique, qui là s'entend qu'il y a une mesure sanitaire, mais une distanciation sociale, pour moi, ça renvoie à des questions qui sont encore... Enfin, qui sont très problématiques aujourd'hui dans un... Et donc la précarité, oui, elle peut être, c'est une précarité de l'isolement, c'est une précarité financière, c'est une précarité de ne pas pouvoir bouffer, c'est une précarité de ne pas pouvoir rencontrer des gens, de ne pas pouvoir retrouver sa famille, de ne pas pouvoir... la rencontre des corps a complètement disparu, on fait croire que le visio, c'est merveilleux, mais en fait, c'est une précarité énorme dans laquelle les étudiants se retrouvent, et quand bien même... Il y en a qui sont très bien logés, qui mangent à leur faim, qui sont entourés de gens qui les aiment, qui globalement ont tout, avec d'énormes guillemets, pour que ça se passe bien. Ça n'empêche pas une certaine précarité dans leur vécu individuel, dans leur ressenti, dans leur souffrance, en fait.
Donc, pour défendre un peu cette cause, vous choisissez de faire un reportage. Pourquoi ce format-là ? Est-ce que c'est justement pour... contrebalancer le discours des médias ou...
Justement, on ne choisit pas de faire un format reportage, mais justement un format documentaire. Et ça parce que justement, on est très conscient de la différence entre reportage et documentaire. Enfin, ce qu'on veut, ce n'est pas de montrer notre avis, en fait. C'est juste de donner la parole à des jeunes qui sont tous différents. On ne choisit pas les profils. C'est-à-dire, on ne va pas choisir un profil parce qu'il nous convient, parce qu'il dit quelque chose qui va dans notre sens. On donne la parole aux jeunes, de façon générale, aux étudiants. On leur laisse dire ce qu'ils veulent. Et même dans les questions qu'on choisit de poser, c'est des questions très ouvertes qui sont pas orientées politiquement ou quoi que ce soit, et qui laissent du coup les jeunes s'exprimer, donner leur ressenti vraiment en profondeur. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Et aussi parce que le format documentaire permet, je pense, de sensibiliser d'une autre façon que le reportage. C'est-à-dire pas seulement avec des choses strictement rationnelles, avec un discours politisé, avec des chiffres, etc. Mais simplement dévoiler une réalité qui est vécue, une réalité qui est partagée par beaucoup et qui fait sens aujourd'hui.
Le collectif Alarme s'est créé pour répondre à une situation urgente, celle du mal-être étudiant. Souhaitant leur donner la parole, et ce, sans filtre, ils réalisent un documentaire basé sur leurs témoignages. Et pour rassembler différents parcours d'étudiants, le collectif fait appel au volontariat.
On a lancé un appel à témoignages il y a un mois. Et donc on a reçu très rapidement pas mal de témoignages écrits. Et on a fait aussi, on a précisé un appel à témoignages dans la région de Lille, donc pour les étudiants qui seraient d'accord de nous rencontrer. Et donc nous, on a été... là, on est en train de tourner les interviews. Et donc il y a des jeunes qu'on va rencontrer chez eux et avec qui on échange, du coup, comme on est en train de faire ensemble là... où nous, on a 9 ou 10 questions, et qui sont des questions ouvertes. Et le but, c'est de... Ça sera le corps du documentaire. Et ensuite, tous les témoignages écrits, on les utilisera dans le docu en leur donnant une forme, en fait.
On veut vraiment essayer de ne pas perdre ce qui a été... Ce que les jeunes nous ont envoyé, ce dont ils ont envie de parler. Et on veut l'intégrer d'une façon ou d'une autre dans le documentaire, que ce soit à travers les plans de transition qui doivent faire référence du coup au ressenti qui nous a été envoyé, ou à travers justement des témoignages audio du coup qu'on lira avec des extraits, des phrases chocs qui reviennent à travers beaucoup de témoignages écrits. Et l'idée aussi, c'est de faire lire ces témoignages par plusieurs voix pour montrer qu'il y a une... que c'est pas juste une personne qui nous a écrit, que c'est un ensemble de voix qui vivent peut-être la situation de façon différente, mais qui, au fond, ressentent une urgence à parler de leurs problèmes, une urgence à s'exprimer, et à vraiment juste s'exprimer, en fait. Il y a des jeunes, aujourd'hui, qui veulent juste être entendus, en fait, être compris.
Qu'est-ce que vous en espérez de ce documentaire ? Est-ce que vous espérez une réponse de quelqu'un, ou c'est vraiment simplement passer le message, ou vous attendez un retour ?
On en attend forcément quelque chose, parce que sinon on ne le ferait pas. En fait, on a déjà eu un retour de ça, parce qu'en fait, très vite, on se posait plein de questions au début, on se demandait un peu si ça avait du sens. Et en fait, quand on a vu qu'on a eu des retours très vite et en nombre en plus, ça a fait retour tout de suite où on s'est dit ouais, ok, ben en fait, c'est pas, on n'est pas en train de délirer, c'est pas juste notre imaginaire là qui est en train de créer un petit truc. Mais en fait, oui, ça parle à beaucoup de gens et ça a du sens. Et les gens nous ont écrit en nous disant qu'ils nous soutenaient beaucoup, qu'ils trouvaient que c'était une initiative qui était précieuse, qui était importante. Les jeunes, en fait, qui tout de suite ont pris la parole d'une manière ou d'une autre en nous écrivant, nous ont dit que ça avait du sens ce qu'on faisait là. Et déjà, ça, c'était une reconnaissance énorme pour nous et c'était un retour déjà hyper galvanisant, quoi. Genre, en fait, ça nous a. On s'est dit, ouais, ok, ben on fonce, on y va, on se pose pas de questions, en fait. On le fait pas pour nous, on le fait pour eux, et ça a déjà du sens pour plein de gens, donc go, quoi. On n'a pas intellectualisé le truc pendant 15 plombes, on a agi, on avait envie d'agir.
Et surtout, maintenant, on a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous ont écrit, vis-à-vis de tous ceux qui ont accepté de témoigner, qui ont ressenti le besoin de témoigner. Aujourd'hui, on ne peut plus retourner en arrière, c'est-à-dire que peut-être au début, on pouvait prendre le projet un peu à la légère, on ne savait pas trop où on allait, mais aujourd'hui, maintenant qu'il y a tant de voix derrière ce projet, on est obligé, on a vraiment ce devoir d'aller jusqu'au bout, en fait. Et c'est, pour moi, c'est la première récompense qu'on va avoir, c'est d'aller jusqu'au bout et vraiment de montrer qu'on a respecté les témoignages qui nous ont été envoyés et qu'on leur donne une voix. Après, évidemment, si le documentaire peut gagner encore plus en importance et toucher encore plus de monde, c'est un plus, mais c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est vraiment de respecter la parole des jeunes qui ont ressenti le besoin de témoigner.
Aujourd'hui, la date de sortie du documentaire reste inconnue. Il prévoit d'être diffusé sur les réseaux sociaux pour devenir un objet commun. Étudiants, vous pouvez encore témoigner par écrit jusqu'à la mi-avril et en vidéo si vous êtes dans la région lilloise jusqu'à la fin du mois de mars. Il vous suffit de prendre contact par mail générationconfinée@gmail.com ou sur les réseaux sociaux du collectif. Une démarche importante qu'Aude et Ryan vous invitent à suivre le 11 mars dernier.
Nous, on est convaincus qu'ensemble, on est beaucoup plus forts et qu'à nombreux, on est beaucoup plus forts. Et on a aussi envie de faire entendre à des étudiants qui sont certainement très isolés dans leur quotidien aujourd'hui que malgré leur quatre murs de 9, enfin, qui fait le tour de leurs 9 mètres carrés, bah, en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens autour. Et mobilisons-nous tous ensemble pour faire entendre nos droits, pour faire entendre nos voix. Et voilà, nous, c'est un peu... ça a été notre but avec ce docu, c'est de se faire porte-voix de la parole de ceux qu'on n'entend pas assez.
Et aussi, ce que j'aimerais dire aussi aux étudiants qui se sentent mal, c'est qu'ils ne sont pas seuls aujourd'hui.
Ouais.
Et aujourd'hui, je me rends compte plus que jamais, on avait déjà ce pressentiment que c'était quelque chose qui était vécu par de nombreux jeunes. Mais aujourd'hui, quand on a commencé à faire ce documentaire et qu'on a reçu des tas de témoignages, on voit que c'est quelque chose en fait qui est généralisé. C'est pas du tout des cas isolés, c'est pas du tout des personnes qui étaient déjà seules avant, c'est quelque chose qui se généralise à des gens qui avaient peut-être pas connu la solitude avant et qui aujourd'hui l'expérimentent et qui en souffrent. Et c'est quelque chose vraiment qui réunit tous les étudiants aujourd'hui, en tout cas une majorité.
Un reportage réalisé par Manon Soren pour RPL Radio. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.